Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte aujourd'hui sur les actions des membres du collectif Chatons dans l'éducation. Nous allons notamment échanger avec Audrey Guélou, membre de Picasoft et doctorante à l'Université de technologie de Compiègne, et avec Neil, contributeur à la Contrevoix, anciennement 42L. N'hésitez pas à participer à notre conversation. Vous pouvez appeler le 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sous le site causecommune.fm, bouton chat. Picasoft et la Contrevoix font partie du collectif Chatons, un collectif d'hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires, c'est la signification de l'acronyme, qui s'engage entre autres à n'utiliser que des logiciels libres pour leurs services en ligne et à ne pas exploiter les données des utilisateurs et utilisatrices. On appelle les membres de ce collectif Chatons, logiquement, je dirais. Le collectif Chatons, c'est une initiative coordonnée par l'association Framasoft. Elle a lancé cette initiative en 2016 et depuis, plein de structures et personnes physiques ont rejoint le collectif qui compte aujourd'hui près de 100 membres. Aujourd'hui, nous avons invité deux membres de ce collectif, ou bien deux personnes représentantes de membres de ce collectif qui agissent notamment dans le secteur de l'éducation, donc Audrey Guélou de Picasoft et Neil de la Contrevoix. Et ils vont mieux présenter les actions de leur structure aujourd'hui. Je vous propose de commencer par une question plutôt classique, donc par vous présenter qui êtes-vous et quel est votre rôle dans votre structure. Audrey, tu veux commencer peut-être ?
Oui, bonjour. Donc Audrey, j'ai rejoint l'association Picasoft il y a un peu plus de 3 ans. C'était à la fin de mon cursus d'étudiante en ingénierie informatique à l'Université de technologie de Compiègne. Donc. Et puis maintenant, je suis toujours à l'UTC. Je suis doctorante en sciences de l'information et de la communication au laboratoire de sciences humaines et sociales de l'UTC qui s'appelle COSTEC. Voilà.
Merci Audrey. Neil.
Oui, bonjour. J'ai participé à la création de la Contrevoix sous le nom de 42L à l'époque, en janvier 2019, quand je suis rentré à 42 Paris, qui est donc une école d'informatique dans Paris 17e.
Parfait. Donc, merci pour cette présentation. Ben, on va présenter aussi vos structures, donc les deux chatons dont on parle aujourd'hui, Picasoft et la Contrevoix. On va inverser. Je commence par Neil. C'est quoi la Contrevoix ?
Alors, la Contrevoix, c'est une association qui a pour but de sensibiliser à l'éthique dans le numérique. Donc, elle organise ses activités de sensibilisation à travers essentiellement des conférences, des ateliers et des débats, essentiellement à 42 jusqu'à présent. Et elle héberge également des services libres et open source qui permettent d'associer la théorie à la pratique, tout simplement en donnant des alternatives concrètes à utiliser, à installer sur ces appareils. Voilà, donc la Contrevoix, c'était à l'époque, ça s'appelait 42L, mais maintenant on s'appelle la Contrevoix parce qu'on est en train de partir de notre école. Avant on était une association étudiante et maintenant on se dit que ça serait bien de pérenniser ce qu'on a fait, de continuer ce qu'on a fait, mais dans d'autres universités, dans d'autres écoles que la nôtre. Et donc maintenant qu'on est bientôt plus étudiante et étudiant, on aimerait continuer dans notre lancée ailleurs. Voilà.
Je remercie d'ailleurs Neil et toute l'équipe de la Contrevoix parce que Neil a accepté de participer à cette émission alors que vous êtes en pleine migration. Vous avez migré votre site tout récemment. C'est un changement, c'est un bouleversement sur plein d'aspects. Donc merci d'avoir fait l'effort de venir tout de même à notre émission.
Avec plaisir. Merci beaucoup pour votre invitation. Ça nous permet de lancer notre nouveau site qu'on a mis en production avant-hier.
Ben, on est ravis de pouvoir annoncer en direct le nouveau site de la Contrevoix. Audrey, je te laisse présenter l'association Picasoft.
Oui, et bien Picasoft, c'est vrai que comme la Contrevoix, c'est une association qui est née dans un milieu étudiant. Elle a commencé à fonctionner en 2016 et puis elle a été créée officiellement en début 2017 par des étudiants et des enseignants de l'Université de technologie de Compiègne. C'était à ce moment-là une volonté de contribuer justement à l'initiative des chatons en créant un chaton local, donc au niveau de l'UTC, et puis de contribuer ainsi donc à la redécentralisation du web à ce moment-là, puisqu'il s'est agi en premier lieu d'héberger des services libres également. Donc ça a commencé par un service de discussion instantanée, Mattermost, un service d'écriture collaborative en ligne, un service de pad. Et puis Picasoft ensuite, et puis aujourd'hui, principalement, c'est vrai qu'on dit que c'est une association d'éducation populaire au numérique et aux enjeux aussi de la culture libre et des logiciels libres. Donc on fait aussi beaucoup d'actions de sensibilisation, de formation auprès des étudiants et des étudiantes de l'UTC et au-delà. Voilà, donc de la sensibilisation, de la formation et de l'hébergement de services web libres. Ce sont les trois pôles d'activité de Picasoft.
Tu as cité quelques-uns des services que votre association propose. En fait, les chatons, à la base, sont des hébergeurs. Après, les associations proposent bien évidemment d'autres activités. Est-ce qu'il y a d'autres services qui sont rajoutés entre-temps ?
Oui, entre-temps, alors on va dire il y a une dizaine de services qui sont disponibles, qui sont accessibles depuis picasoft.net. Alors si j'en cite quelques-uns, donc on avait les tout premiers Mattermost et Etherpad, on a eu un autre service de pad aussi qui utilise le format Markdown, c'est un autre format d'écriture, mais ça fonctionne sur le même principe de l'écriture collaborative en ligne. Il y a un service de chat vocal qui s'appelle Mumble. Il y a aussi des instances qui permettent de partager des contenus multimédia comme Peertube, c'est du partage de vidéos. Il y a aussi une instance Mobilisons qui permet d'organiser des événements. On utilise aussi des services comme du partage de fichiers, sécurisés, des tableaux en ligne. Enfin voilà, il y a une dizaine de services à découvrir à partir de picasoft.net. Alors si je précise maintenant, peut-être éventuellement on a un petit souci de timing. Disons, on a eu une migration d'un des serveurs de Picasoft qui est passé de Toulouse à Compiègne. Aujourd'hui en fait, il se réinstalle aujourd'hui, et donc aujourd'hui même on a quelques services qui sont en rade, mais c'est temporaire, ils devraient revenir ce soir si tout va bien et tout ira bien. Donc voilà, juste pour prévenir, ne soyons pas surpris, quelques sites ne sont pas disponibles, mais ce soir ça arrivera.
Je me fais pas de soucis, les services sont en ligne sous peu. Neil, pareil, donc la Contrevoix, c'est un chaton, un hébergeur, entre autres. Quels sont les services que vous proposez dans votre association ?
Alors nous, on propose 8 services. On a commencé par le mail, alors c'était peut-être pas le choix le plus judicieux, mais voilà, donc on propose par exemple du mail, ce qui permet à des personnes d'avoir une adresse mail en @42l.fr ou @courrier.dev ou @kittens.army chez nous, plutôt que chez Gmail ou chez Outlook. C'est vraiment, je pense, l'étape la plus importante quand on essaye de l'une des étapes les plus importantes quand on essaye de se dégoogliser. Ensuite, on propose également un raccourcisseur de liens ou un service alternatif à Google Forms. Voilà, on propose quelques petites alternatives comme ça, mais effectivement, on n'a pas, par exemple, les moyens de Picasoft vis-à-vis de notre infrastructure, donc on tombe sur un tout petit serveur, et donc voilà, on reste assez assez sobre, on va dire, sur l'hébergement de nos services.
C'est déjà beaucoup, et ça va peut-être venir.
On espère.
Et tous ces services, vous les proposez en premier lieu à des étudiants, quelle est votre cible principale ?
Alors, la plupart de nos services sont en libre accès, donc n'importe qui peut les utiliser. Et il se trouve que beaucoup de personnes qui sont de l'extérieur de notre école utilisent déjà nos services. Et après, effectivement, on a quelques services qui sont sous adhésion, pour des raisons d'espace disque essentiellement, parce que comme on a dit, on a une petite machine. Et dans ces cas-là, en fait, on a remarqué que peut-être un tiers des personnes qui ont adhéré à l'association ne viennent pas de 42. Et donc, en fait, on cible un public qui est manifestement assez large, essentiellement, je pense, grâce aux chatons, parce que comme on a rejoint ce collectif, ça nous a donné un peu de visibilité, et donc ça nous a permis de toucher des publics auxquels on ne s'attendait pas, surtout des publics, en fait, locaux. Donc, des personnes qui sont dans la région de Saint-Ouen, donc près du 17e, qui ont regardé la carte chaton et qui se sont dit « Ah, il y a un chaton près de chez moi !» Et donc, qui ont fait cet effort de venir nous voir et nous demander si on ne pouvait pas leur fournir des services. Et donc, on est content et contente que ça puisse servir à d'autres personnes que notre public original. Alors maintenant, de toute façon, comme on compte sortir de notre école, on va avoir une portée un peu plus large et un public qui va changer, mais voilà, ça nous fait très plaisir que ça soit utilisé ailleurs.
C'est bien de rappeler que l'initiative Chatons, justement, c'est coordonnée par Framasoft qui met à disposition un site avec une vue géographique, avec la possibilité de rechercher justement les chatons plus près de chez soi. Comme Pierre-Yves de... je ne me souviens plus le nom de famille.
Pierre-Yves Gosset.
Gosset, bien sûr. Pierre-Yves Gosset. Et merci de Framasoft l'aime rappeler. Les chatons peuvent être considérés aussi comme les GUL. Hein. D'ailleurs, les groupes d'utilisateurs et utilisatrices de logiciels libres, un peu comme les AMAP, c'est-à-dire ce sont des associations. Plus elles sont locales, c'est encore mieux parce que les personnes peuvent aller voir les personnes qui gèrent, qui maintiennent ces services, demander de l'aide, demander comment les utiliser, etc. Donc ça fait partie de la richesse des chatons, avoir aussi une relation humaine. dans la vraie vie.
Oui.
Audrey, c'est pareil, donc la cible principale, si j'ai bien compris, de Picassoft, c'était les étudiants à la base. Est-ce que c'est le cas ou plus ou moins vous avez aussi un pourcentage, un quota important de personnes qui ne viennent pas du monde de l'université, par exemple?
Alors, un pourcentage, je serais incapable de vous le donner, mais c'est vrai que au départ, oui, la cible première, disons la plus accessible pour nous, ça a été de proposer ces services-là aux étudiants et aux étudiantes de l'UTC. Mais ça s'est élargi, c'est-à-dire que, alors on est à peu près 4 500 étudiants et étudiantes à l'UTC, et sur Mattermost, le service donc de discussion instantanée, on a un petit peu plus de 8 500 utilisateurs et utilisatrices, et en fait, voilà, on a d'autres associations, des petites entreprises aussi qui utilisent ce service-là. Les pads, voilà, on ne récupère pas de données, on ne sait pas qui utilise nos pads, mais voyez, il y a à peu près 3000 pads qui sont en service, qui sont en vie en ce moment. Donc voilà, on touche en premier les étudiants et les étudiantes de l'UTC, mais ce sont des services en effet locaux pour des associations qui sont autour de Compiègne, mais pas que. Voilà, donc cette relation, comme tu le disais plus tôt, d'avoir une relation locale où on est proche, où on peut répondre s'il y a un problème sur un pad, si on a une question vis-à-vis d'un service. C'est vrai que les membres de Picassoft sont en général assez réactifs pour proposer une aide, proposer des conseils, etc.
On a parlé donc de services, mais l'émission d'aujourd'hui, c'est les actions des membres du Chatons dans l'éducation. En fait, parmi vos actions, il y a notamment des actions, des ateliers, des conférences, etc. On va voir plus en détail ensemble, qui sont orientées en premier lieu, on va dire, vers les étudiants. Donc départ, l'origine en fait finalement de vos associations. Donc pour la Contrevoix par exemple, ce nom, ça vous l'avez cherché longtemps avant de changer de nom et vous avez choisi ce nom et je pense que c'est très inhérent en fait à l'origine finalement de votre association.
Oui, tout à fait. En fait, l'association s'est créée assez tôt quand on est rentré à 42. Parce qu'on s'était aperçu qu'il y avait énormément de conférences et d'activités au sein de notre école qui avaient pour vocation de promouvoir les grandes banques, les géants du numérique, les GAFAM justement, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, mais aussi d'autres grandes entreprises du CAC 40 qui venaient directement dans l'école. Alors je ne sais pas s'ils étaient invités ou pas, peut-être pour certaines, mais en tout cas qui missionnaient des membres pour des salariés pour aller fournir des conférences, proposer des offres d'emploi, offrir des buffets gigantesques. Bon, on s'est dit que en fait dans leurs conférences, la vision que ces entreprises apportaient n'était pas ne correspondait pas forcément à la vision qu'on a nous du numérique et de l'éthique dans le numérique. Et donc, on a décidé, pour amorcer une sorte de contre-influence au sein de notre école, d'organiser nos conférences à nous. Et ça a plu à l'école, finalement, parce qu'on fait de l'animation, on anime un peu l'école. Et puis, c'est une initiative étudiante, et donc, ça fait toujours plaisir. Donc, voilà, on a organisé petit à petit, une fois par mois, des conférences régulières à 42 pour... contre-influencé pour une sorte de contre-voix finalement à ces grandes entreprises.
Parfait. Et donc, dans le cadre de votre association, les enseignants n'ont pas joué de rôle, parce que comme vous, tu vas probablement le rappeler, l'école 42, c'est une école un peu particulière.
Alors oui, tout à fait. À 42, il n'y a pas de professeur. L'école est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, c'est un peu open bar, c'est-à-dire que les étudiantes et les étudiants peuvent venir travailler quand ils ou elles veulent. Et en fait, il n'y a pas de corps enseignant. Il y a des encadrantes et des encadrants pour le côté administratif et quelques détails techniques éventuellement, mais... Voilà, donc ça reste... En fait, les étudiantes et les étudiants sont en permanence en auto-formation. Et donc, tout ce qu'on a comme élément extérieur, ce sont les conférences. Ce sont les personnes qui viennent présenter leurs éléments, leurs connaissances, leurs expériences, les apports théoriques, on va dire, du cursus, sont essentiellement à travers des conférences, s'il doit y en avoir.
Donc une initiative étudiante pour les étudiants. Picassoft, c'était un peu différent, si je dis bien. Il y a eu une espèce de collaboration entre les étudiants et les enseignants. Tu veux vous en parler un peu plus, Audrey ?
Oui. Alors je suis allée interroger les personnes concernées, puisque donc, je n'y étais pas, mais c'est vrai que ça a été un véritable dialogue entre quelques étudiants et enseignants de l'UTC. Et en particulier, je vais le nommer Stéphane Croza, qui a été à l'initiative donc, de la association et puis de beaucoup de justement de dispositifs de formation aussi à l'UTC. Je pense par exemple aux API, les activités pédagogiques d'intersemestre. À l'UTC, entre deux semestres, on a une petite période d'un mois comme ça où on a des activités étudiantes. Et puis, avec Picassoft, par exemple, il y a des formations d'initiation à l'utilisation de Linux ou d'initiation à l'auto-hébergement. Et ça, c'est vrai que c'est possible à l'UTC. Et puis, moi, je vais nommer Stéphane, mais il y a d'autres enseignants et enseignantes qui sont aussi sensibilisées aux livres et puis qui poussent à l'utilisation de logiciels libres pour, alors que ce soit dans le cadre de leurs enseignements ou dans le cadre de formations annexes comme celle dont je viens de parler. Et puis il y a aussi il y a la possibilité de mener des enseignements expérimentaux, on va dire les TX on les appelle, où des étudiants vont travailler sur un projet par exemple qui a permis pour Picassoft de sécuriser des parties de l'infrastructure. Et ça, c'est vraiment dans le cursus ingénieur et c'est aussi fait en collaboration avec des enseignants en effet de l'UTC. Et puis c'est vrai qu'à l'UTC on a pour le coup il y a un tiers des enseignements qui sont des sciences humaines et donc ce département de sciences humaines est porté aussi par des réflexions sur les enjeux de la technologie numérique, sur après notre façon de comprendre le monde, de le percevoir, et donc il y a quand même plusieurs enseignants qui sont assez sensibles à ces questions-là, à la question du libre, et donc qui ont aussi invité Picassoft à intervenir dans leur cours pour présenter, faire un petit peu de sensibilisation. Il y a quand même, c'est vrai, un mouvement qui est assez, qui ouvre certains dialogues aussi horizontaux entre étudiants et enseignants. Et c'est vrai que ça, c'est assez agréable aussi de sentir que certains, que des enseignants poussent, ne posent pas de résistance à ces initiatives-là et au contraire les accompagnent.
C'est un environnement effectivement propice, comme tu disais, à cette collaboration et à ces enjeux. Mais il faut dire quelque chose de positif aussi pour l'école 42. Ils vous ont mis quand même à disposition pas mal de matériel pour faire les conférences, tu me disais.
Effectivement, on a la chance d'avoir quand même des locaux, de bénéficier d'une salle, d'un public et de pouvoir même organiser régulièrement des activités avec le même public, ce qui amène à une certaine fidélisation de notre public et donc ce qui permet d'avoir éventuellement des contributeurs et contributrices qui rejoignent l'association. Et donc on a la possibilité de planifier des événements sur leur intranet. On a quand même le luxe de ne pas avoir à se prendre la tête à louer un local, par exemple, ce genre de choses. Donc, même si on n'a pas du tout de soutien financier, on a quand même pas mal d'aide, on va dire, en nature. Voilà.
Je dis 42L par erreur. C'est l'ancien nom. Le nouveau nom, c'est la Contrevoie.
Tout à fait.
N'hésite pas à me corriger si je le redis. Tu parlais de membres, contributeurs, contributrices qu'on peut arriver à recruter au moment où on propose des conférences ou des actions. Quel est le profil du membre type chez Picassoft et chez la Contrevoie, Audrey?
Les membres types, alors disons, c'est quand même un membre qui est assez militant sur les questions du livre au départ, ou alors qui se posait pas mal de questions avant d'arriver à l'UTC. Alors on a des membres qui sont arrivés à Picassoft, j'ai dit l'UTC, à Picassoft, pour vraiment après progresser en, en, avec leurs capacités techniques, c'est-à-dire en administration système. Il y a cette motivation-là pour certains et certaines membres, mais pas tout le monde. En fait, je dirais ce qui rassemble tout le monde, c'est cette volonté quand même de contribuer, d'être un acteur ou actrice de la plus grande visibilité, de la plus grande appropriation des logiciels libres par les étudiantes de l'UTC et puis au-delà, voilà, de contribuer à cette redécentralisation du web. Je pense que ça, ce sont des points communs parmi tous les membres de Picassoft. Ouais.
O'Neill,
je ne sais pas si on peut facilement définir un profil type dans notre association. Comme notre public est particulièrement varié, comme l'école accueille des personnes de nombreux horizons, de nombreuses nationalités également, ça nous offre un public assez large où il n'y a pas vraiment de... On ne peut même pas forcément définir de tranche d'âge facilement. Donc voilà, on a des personnes qui gravitent autour de l'association, qui contribuent de manière assez ponctuelle également. Et je ne sais pas si peut-être que ça intéresse particulièrement les geeks, peut-être, effectivement. Mais en fait, on arrive aussi à organiser nos activités de manière à toucher un public qui ne soit pas seulement les geeks. Et je pense que c'est aussi important parce que les questions des données personnelles, ça ne touche pas seulement un public geek. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire à travers nos conférences. Je ne saurais pas forcément dire si, en pratique, ça marche. Il faudrait qu'on pose la question en interne, si ce sont des geeks ou pas. Mais après, on est quand même dans une école de développeurs et développeuses, donc voilà.
On parlait d'action dans l'éducation, une chose dans laquelle vous revendiquez sur les deux sites et auprès de vos structures, c'est l'éducation populaire. Donc il y a plein de définitions possibles d'éducation populaire. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Et comment ça se concrétise en fait dans les actions portées par vos associations? Je fais comment? C'est Nate cette fois.
D'accord. Alors, en ce qui me concerne, au début, en fait, à l'association, on ne se considérait pas du tout d'éducation populaire. Enfin, pas du tout. C'est-à-dire qu'on ne s'était même pas posé la question parce qu'on ne savait pas vraiment ce que c'était, finalement. Et puis, petit à petit, en grandissant et en regardant un petit peu ce qui se faisait dans d'autres associations comme Framasoft, notamment, en fait, on a pris du recul sur les activités qu'on avait organisées. Ça nous a permis de nous positionner un peu dans l'écosystème associatif et peut-être aussi de gagner un petit peu en maturité sur les actions que nous organisions. Et donc aujourd'hui, je pense qu'on définit l'éducation populaire comme une manière de s'émanciper déjà en dehors des cursus, traditionnels, classiques, et aussi de manière participative, c'est-à-dire qu'on va donner des outils. En fait, ça sera aux personnes aussi de les prendre et d'expérimenter avec. C'est une sorte d'expérimentation permanente, en quelque sorte, je pense. Après, je n'ai pas la prétention de donner une définition universelle d'éducation populaire, bien évidemment, mais...
Je ne crois pas que ça existe.
Je crois qu'il n'y en a pas, effectivement. Mais donc voilà, c'est le fait de participer à une contre-culture de cette manière, je pense que c'est notre façon à nous de faire l'éducation populaire.
Et Picassoft et l'éducation populaire?
Oui, je crois qu'on rejoindrait vraiment la définition que tu viens de donner, Neil. C'était les mots les plus importants, c'est cela. En effet, on va dire que l'objectif de l'éducation populaire, c'est, tu l'as dit, une démarche d'émancipation, une démarche de rendre autonome. En fait, l'idée, c'est de permettre d'accompagner les gens qui le souhaitent à acquérir des compétences, la capacité en fait d'agir dans le monde numérique. En fait, c'est la capacité de comprendre comment les outils numériques fonctionnent, de savoir comment ils s'en servent pour être en mesure ensuite de les choisir, de pouvoir agir en connaissance de cause en fait dans le milieu numérique. Et donc concrètement il s'agit de reprendre les choses en main en fait, donc de manipuler ces outils là d'apprendre comment ils fonctionnent et puis de reprendre le contrôle dessus, de savoir voilà comment ils s'en servent, comment ils fonctionnent. Et puis après, pour ce qui est des enjeux du numérique, eh bien là ça va être de discuter simplement autour de ces enjeux, autour de la protection des données personnelles, etc., pour essayer de comprendre. Collectivement, c'est vrai que là, tu le disais, c'est en dehors des structures, des institutions classiques, on va le dire, de l'éducation, mais c'est vraiment une discussion où il n'y a pas d'ignorants, de sachants. Ici, c'est une discussion où on se rend finalement compte soi-même que, eh bien, on a un savoir, on a une culture à partager, on a de l'expérience à partager, et puis on peut apprendre des autres aussi. C'est un petit peu ça, ce côté populaire. Et puis, l'idée, voilà, c'est d'acquérir la capacité d'agir dans son milieu numérique. Donc, comprendre les outils pour s'émanciper, tu le disais, c'est ce mot qui compte. Et puis voilà, c'est essayer de comprendre, voilà, est-ce que l'utilisation de cet outil-là me sert vraiment, ou est-ce qu'il me rend dépendant? Est-ce que je sais comment il fonctionne, pourquoi, dans quel intérêt, etc. C'est toutes ces questions-là.
Eh bien, il me semble que vous avez donné deux belles définitions d'éducation populaire. Vous vous adressez aux étudiants, mais pas que, en fait. Notamment pour Picasoft, j'ai vu que vous avez fait aussi des actions auprès d'un public encore plus jeune.
Oui.
Lycéens, collégiens. Tu veux peut-être nous dire quelques mots sur ça?
Oui, alors en fait, tout démarre autour de la fête de la science. Donc la fête de la science qui est un événement national à l'UTC tous les ans en octobre, il y a voilà, pendant 4 jours. Tout un grand événement avec beaucoup de stands et d'ateliers par les étudiants, les enseignants et enseignantes de l'UTC autour d'une thématique en particulier. Et puis Picasoft y est souvent, si ce n'est toujours, pour présenter justement, faire des ateliers d'autodéfense numérique en particulier. Auprès de publics qui donc peuvent être très jeunes, je crois que ça allait de la maternelle ou du primaire jusqu'au lycée. Et donc en fait, pendant la semaine, donc le jeudi, vendredi en général, il y a des classes, donc des établissements scolaires qui viennent sur le campus de l'UTC, qui viennent visiter les stands, voir participer aux ateliers, etc. Donc on rencontre en effet des classes, des profs, des enseignants, et puis le week-end ensuite c'est plutôt des familles qui viennent nous voir, donc là c'est un public, on va dire tout public. Et donc, en effet, à partir de cet événement-là, il y a eu des contacts qui ont été pris avec des enseignants de CM2, de 4e, de seconde, si je repars un petit peu dans l'historique, pour que ensuite Picasoft, quelques membres de Picasoft, interviennent directement dans les classes pour faire de la sensibilisation aussi aux enjeux du numérique, à la protection de sa vie privée en ligne. Donc voilà, après il faut adapter aux classes, aux âges, mais voilà, ça a été en effet une activité de Picasoft qui est à relancer maintenant, mais voilà.
Et tu as parlé de la fête de la science, tu peux nous rappeler la période de l'année où elle a lieu?
C'est en octobre et la prochaine aura lieu du 13 au 16 octobre.
Donc c'était bien de préciser, parce que si vous êtes intéressé, c'est pour bientôt. Oui. La même question pour Neil. Je sais que jusqu'à présent, la Contrevoix, anciennement 42L, faisait des conférences voilà, dans le cadre de l'école. Bien évidemment, conférences, comme tu disais, ouvertes à tout le monde. Donc il y avait d'autres personnes qui pouvaient venir. Est-ce que vous envisagez de vous adresser aussi à un public comme ça a été pour Picasoft, par exemple, des classes de lycéens, de collégiens? Est-ce que c'est quelque chose que ça vous plairait de faire et que vous avez envie de faire avec votre projet?
Alors oui, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose, l'un des objectifs de l'association. Comme nous avons pour vocation de sortir de notre école et d'intervenir dans d'autres établissements, on aimerait cibler en priorité les lycées, les universités, les collèges si c'est possible, essayer d'adapter nos formations, de créer de nouvelles formations pour cibler de nouveaux publics, et éventuellement effectivement des publics plus jeunes. Je pense qu'il y a un enjeu énorme à intervenir dans ces lieux d'émancipation et de partage de connaissances, et donc c'est ce qu'on essayerait de faire d'ici un ou deux ans, le temps qu'on réussisse à sortir et avoir les agréments nécessaires pour intervenir dans des établissements et éventuellement en vivre finalement, éventuellement avoir un modèle de financement qui se base aussi en partie sur les subventions publiques de cette manière.
Tu parlais d'agrément, il faut un agrément pour parler dans les établissements scolaires?
Alors, je crois que ce n'est pas absolument nécessaire, mais en tout cas, il y a deux agréments qui sont particulièrement importants, qui peuvent être très valorisants pour lorsqu'on se présente dans un établissement. Il y a l'agrément jeunesse éducation populaire. Comme par hasard, il y a éducation populaire dedans, donc on se rejoint un petit peu. Et puis, il y a également, je ne suis pas sûr de l'agrément, mais du nom de l'agrément, mais je crois que c'est association complémentaire de l'enseignement public, que j'ai découvert récemment par des cours sur un diplôme universitaire conduite de l'engagement associatif à Paris 8, qui permettrait à des associations d'être plus facilement reconnues pour intervenir dans des établissements.
Donc pour vous rendre aussi plus visible et donc et espérer de pouvoir voilà de pouvoir faire des actions le plus possible auprès de ces nouveaux publics.
Exactement.
Merci pour ce première partie d'échange. Je vous propose de faire une pause musicale. Nous allons écouter Comme une philosophie par La Muette. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune 93.1.
Comme une philosophie, la trame d'un chant, par-delà la route, un chemin battu à mort, quelques lignes sur la feuille d'un arbre. Associé malfaiteur de nos âmes, mon chéri, tu chéris notre drame, tu finasses avec art sur notre fille maman, tu épouses la courbe d'un temps qui odieusement a bouffé le beau cœur des amants. Comme une philosophie, la dame d'un camp, fleurissant les oreilles du vent. La voix est sans issue de discours, tous tes mots parlent d'amour. Associé malfaiteur de nos âmes, mon chéri, tu chéris notre drame. Sauras-tu admirer ma cambrure et mes charmes au toucher d'une main masculine qui te dira décline. Tombe donc dans le trou par toi-même creusé, inaugure ton fossé sans appel, va fouler la femelle que vaudrait dans
Nous venons d'écouter Comme une philosophie par La Muette, disponible sous licence libre Creative Commons CC BY SA 3.0.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Nous allons poursuivre notre discussion. Je suis Isabelle Lavani de l'April. Les autres personnes qui participent à l'émission sont Audrey Guélou, membre de Picassoft et doctorante à l'Université de technologie de Compiègne, et Neil, contributeur à La Contrevoix. Cette émission est consacrée aux actions que ces deux associations, membres du collectif Chatons, mènent dans le domaine de l'éducation. Et on a parlé en fait de ce que c'est l'éducation populaire, de comment voyez l'éducation populaire, comment se concrétisent les actions d'éducation populaire de vos associations. Et Neil, tu disais que vous envisagez de cibler un public plus large que les étudiants dans les prochaines évolutions à venir de l'association La Contrevoix. J'imagine que pourrez vous faire expérience aussi et profiter de ce qui est a déjà été mis en place par Picassoft, parce qu'en fait, Picassoft, vous avez pas mal de ressources que vous mettez à disposition en ligne. Tu veux peut-être nous en parler un peu ?
Oui. Alors, je pense en premier, disons, aux émissions de radio. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est accessible en ligne et puis qui nous a constitué pas mal de matériel finalement, parce que c'est de mai 2019 à fin 2021. On se rejoignait toutes les semaines dans les studios de la radio Graphite à Compiègne avec quelques membres de Picassoft pour bien parler pendant une petite heure d'un sujet, alors que ça pouvait être leur décentralisation du web pour changer. On a parlé de Linux, on a parlé d'ingénierie durable.
Ça s'appelait comment l'émission?
C'était La Voix est libre, c'est vrai que je fais le suspense. Non, c'était La Voix est libre, merci Isabella, en effet. Donc on a une petite soixantaine d'épisodes qui sont disponibles maintenant sur podcast.picassoft.net. Et donc ça voilà, c'est une ressource en effet accessible en ligne à toute personne que ces sujets intéressent et qui resteront donc en ligne. Et puis les émissions de radio vont se poursuivre prochainement. Et on a aussi, alors c'est, disons, c'est conjoint à Picassoft, c'est les formations en ligne qui sont disponibles sur LibreCours, LibreCours.net. Donc LibreCours, c'est une plateforme de formation en ligne dont les contenus sont sous licence libre. Et donc ce sont des formations qui ont été assez variées, mais qui tournent autour quand même du numérique. Il y a eu des formations auxquelles Picassoft a contribué, comme des formations à Linux ou des formations à l'initiation à la programmation avec JavaScript par exemple, et puis des formations sur la culture libre, les licences libres, le droit d'auteur, la low-technicisation numérique. Ici là on s'intéresse aux enjeux de conception d'outils numériques dans une perspective de plus de soutenabilité, plus de convivialité des outils. Voilà, donc après on s'intéresse aussi aux enjeux environnementaux au numérique. Et donc tout ça, ce sont des formations qui sont qui ont soit un temps donné, ils ont par exemple c'est sur 6 semaines avec des animateurs et des animatrices de Picassoft qui sont là pour accompagner les apprenants, ou alors aussi ce sont des formations qui ont disons qui sont sur un temps infini où là bon, on apprend à notre rythme, et puis les membres de Picassoft sont sur Mattermost de l'autre côté pour répondre aux questions s'il y en a.
Très bien. Mais la Contrevoix aussi, elle a déjà plein de ressources disponibles en ligne. Je crois, Neil, tu veux en parler
un peu ? En effet, nous avons notre chaîne Peertube sur laquelle nous, qui est hébergée par l'association Tedomum, qui est aussi chaton, que je remercie encore, qui nous permet d'héberger toutes nos vidéos de conférences, de toutes les activités qu'on organise, ou du moins tout ce qu'on peut héberger, tout ce qu'on peut filmer, en tout cas tout ce que 42.
La Contrevoix.
Alors, pour le coup, c'est 42, 42. Qui s'occupe de la captation de nos vidéos jusque-là.
Ah oui, la colle 42, pardon.
Et on remercie également les studios 42 de nous permettre de filmer nos activités. Donc, toutes nos conférences sont disponibles sur notre chaîne Peertube, ce qui permet de garder une trace de nos activités et permet également la réutilisation libre de ces contenus, puisque ces contenus sont sous licence Creative Commons by, donc attribution requise. Et nous avons également un dépôt qui est sur notre Git, donc notre logiciel de développement, notre logiciel de partage de code sur Internet, qui nous permet de partager également toutes les trames de nos activités de sensibilisation afin qu'elles puissent être réutilisées par d'autres collectifs, d'autres associations.
Je suis en train de, j'en ai parlé pendant la préparation de l'émission, toutes ces ressources que vous mettez à disposition. Est-ce que vous savez s'il y a d'autres associations comme vous dans le collectif Chatons qui ciblent les jeunes, que ce soit étudiants, lycéens, collégiens? Est-ce que vous savez s'il y en a d'autres en plus de Picassoft et La Contrevoix? Est-ce que vous envisagez peut-être de vous coordonner ou de mettre encore plus en commun toutes les ressources? Ça, c'est une question que je vous donne comme ça.
Comme ça. Alors, c'est terrible, mais je suis incapable de citer un autre chaton qui
n'existe pas.
Pour lequel, si, sans doute. Alors, oui, tu as raison, Thomasoft, absolument. qui s'adresse en particulier aux lycéens.
Bon
oui. Il y en a absolument, il faut aller voir sur chaton.org. C'est les chatons qui s'adressent au public plus jeune. Et pour ce qui est de la coordination entre chatons.
Ou dans le groupe, je ne sais pas.
Oui.
dans le collectif pour pouvoir s'entraider, partager éventuellement des expériences, des pratiques, je sais pas. Hein, c'est
Alors, au niveau de la coordination, ce auquel je pense, c'est l'initiative Upload de Framasoft, lancée par Framasoft. Donc, Upload, un nouvel acronyme pour l'université populaire libre, ouverte, autonome et décentralisée, qui est donc ce projet pour justement créer des réseaux de personnes qui font de l'éducation populaire, notamment sur des sujets du numérique. Et donc, dans cette initiative de Upload, par exemple, il y a eu le MOOC Chatons, ce cours en ligne des chatons qui a été mis en place. Et donc, cette initiative-là, en effet, c'est une initiative tout de même pour coordonner justement des personnes qui œuvrent dans l'éducation populaire aux enjeux du numérique. Et donc, en effet, pour tous les chatons comme la Contrevoix et Pipicasoft qui œuvrent dans ce domaine-là, auprès de publics donc jeunes ou moins jeunes, eh bien, ça peut être une bonne initiative autour de laquelle se regrouper.
Je souhaite rajouter aussi qu'il y a d'autres quand même structures, par exemple, donc on a vu Framasoft, mais aussi il y a aussi AnimaFac ou MarsNet qui organisent des formations. Et d'ailleurs, en fait, c'est un sujet sur lequel on a déjà échangé avec les chatons à plusieurs reprises, parce que on s'est aperçu que tout simplement, eh bien, dans l'acronyme chaton, il y a collectif d'hébergeurs. Donc, ce sont avant tout des structures qui hébergent des services et qui font assez peu de formations, comme tu l'as souligné. Mais on espère en tout cas que cette initiative d'aller vers des publics et de sensibiliser de nouveaux publics se démocratise un petit peu plus au sein des chatons. Et il y a pour ça également le projet Emancipasso, réalisé en par Framasoft en collaboration avec AnimaFac, pour créer une formation sur plusieurs jours qui serait entièrement financée par des partenaires, et donc qui serait libre d'accès pour notamment les chatons, qui permettrait de former finalement les personnes qui hébergent des services au sein des chatons à l'éducation populaire, à la transmission de connaissances et à l'accueil de publics non initiés. Et j'espère, en tout cas, j'ai assez hâte que Emancipasso démarre, parce que ça a l'air vraiment bien. Voilà.
Vous avez bien fait de rappeler ces formidables initiatives, et effectivement, ça permettra d'outiller, de donner des compétences supplémentaires aux personnes et structures qui hébergent des services éthiques et qui veulent aller plus loin avec des actions de sensibilisation. Tout à l'heure, Audrey, tu as parlé de Mattermost, du fait que les membres sont à disposition sur ce salon de chat, pour pouvoir répondre éventuellement aux questions des personnes. Oui. Et c'est justement la question que je voulais poser. Vous faites des conférences, vous proposez des formations ou des ateliers. Quels sont les retours des personnes qui participent à ces conférences, à ces formations? Est-ce que vous demandez qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce qu'il y a des retours? Est-ce qu'ils vous écrivent? Est-ce qu'ils vont en savoir plus? Comment ça se passe, le follow-up, c'est-à-dire les actions post-action?
Ah non, plus personne de l'UTC ne nous parle, ça n'a pas du tout. oui, en effet, non, on a des bons retours. Alors, disons des étudiants et des étudiantes qui assistent aux conférences et aux ateliers en général, ça se passe bien, parce que ce à quoi je pense en particulier, c'est les étudiants et les étudiants qui participent aux activités pédagogiques d'intersemestre, donc ces formations d'une semaine à l'UTC. Donc, par exemple, à l'initiation à Linux, eh bien, on a des étudiantes et des étudiants qui ensuite veulent rejoindre Pipicasoft parce que voilà, le sujet leur a plu, la convivialité au sein de l'association, les sujets leur ont plu. Et puis aussi au niveau des étudiantes et des étudiants. Alors, à ma connaissance, on ne fait pas de sondage vraiment à chaque fois pour savoir si ça a plu ou non, mais c'est vrai qu'on est tout de même assez attentif au retour, et notamment sur Mattermost, où on a un canal de discussion, le canal général dans l'équipe Pipicasoft. On a 600-700 personnes avec lesquelles discuter, qui peuvent nous faire des retours sur les activités passées. Voilà ce à quoi je pense immédiatement. Des bons retours.
Et de notre côté...
Oui, oui, je t'en prie.
Désolé. Oui, effectivement, de notre côté, on a la possibilité, grâce à 42, d'avoir un formulaire de commentaires pour chacune de nos conférences. Et donc, on en profite, effectivement. On a pas mal de retours à chacune de nos conférences. Et généralement, les retours sont plutôt, globalement très positifs. On emmène même sur des sujets très divers... Par exemple, la fois on a invité la Quadrature du Net ou Exodus Privacy, par exemple, on a toujours eu des retours assez positifs et intéressés par rapport à nos activités. J'irai pas jusqu'à dire systématiquement que ça emmène à la contribution, parce que alors même si les personnes sont intéressées par les enjeux de l'association et souhaitent éventuellement se dégafamiser à leur petite échelle, ces personnes n'ont pas forcément le temps ni l'envie de s'impliquer dans toutes les activités de l'association et l'organisation de stands, etc. Et c'est parce que ces personnes, notamment, ne se sentent pas légitimes de porter ces enjeux elles-mêmes. Et donc, c'est un énorme travail sur lequel on doit travailler pour permettre aux personnes de se sentir un peu plus... à même de porter ces enjeux et de leur permettre aussi d'avoir le bagage culturel nécessaire pour éventuellement organiser des conférences à leur tour. Et ça, je pense que c'est l'un des plus gros enjeux qui font partie aussi de l'éducation populaire dont on parlait tout à l'heure, sur lequel on doit progresser encore.
Parce qu'effectivement, c'est un autre enjeu très important pour une association, c'est comment garantir sa pérennité, si on pense que ça en vaut la peine, si on pense que la mission est juste. C'est important aussi de continuer à avoir des membres actifs, des bénévoles qui portent les actions. Et donc, tu parlais de la possibilité éventuellement de recruter de nouveaux contributeurs, de nouvelles contributrices. L'April aussi est une association, donc on est confronté à cet enjeu. Et c'est aussi important peut-être d'essayer d'animer aussi son propre réseau de membres, de soutien actif. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour garder la flamme?
La garder, ça, on y arrive. C'est la faire passer qui est plus difficile. Et effectivement, nous, on a essayé d'organiser des campagnes de recrutement. Alors, de recrutement, c'est plutôt des appels à l'aide, on va dire, des appels à contribution. Après nos conférences, par exemple, effectivement, on a eu des personnes qui nous ont rejoints ponctuellement sur quelques mois. Mais c'est difficile de faire durer cet engagement, notamment parce que on est dans un contexte d'association étudiante. Comme à Picassoft, je ne sais pas si vous avez les mêmes problématiques, mais effectivement, les étudiantes et les étudiants sont de passage à l'école et donc restent peut-être un an et demi, et puis après, c'est la fin de leur cursus. Alors, et le temps en fait que ces personnes-là puissent acquérir tout le bagage culturel que nous avons à transmettre et qui doit être forcément maîtrisé par les personnes qui souhaitent représenter ces enjeux, ces personnes ont déjà fini leur cursus. Et donc, elles ne peuvent plus vraiment contribuer à l'association. Donc, on a une certaine marge de progression. Après, je ne sais pas trop comment ça va se passer quand on va quitter notre école, quand on va être confronté à un public qui est certainement beaucoup plus large, mais beaucoup plus fluctuant. On n'aura pas un public particulièrement fixe. Je pense que ce sera encore plus difficile de recruter des contributeurs et des contributrices. Et je pense que il va falloir qu'on réfléchisse à cette question un peu plus sérieusement.
Oui. C'est un beau chantier, mais en même temps, c'est un chantier ambitieux et qui, je veux dire, assez enthousiasmante. Je veux dire, tout est nouveau. Vous avez tout à construire, en fait. Donc, oui. C'est compliqué, mais ça donne aussi envie, ça motive. Je pense que vous êtes. Et côté Picassoft, quelle est votre façon de garder la flamme, d'animer votre réseau interne?
Oh là, la flamme. Alors, la flamme brûle effectivement beaucoup à Picassoft. On a en fait les mêmes enjeux liés à l'ancrage étudiant. Hein. C'est vrai, tu le disais bien, Neil, le turnover, ce que l'on dit, que quand les étudiants arrivent à l'UTC, ils vont être un semestre en stage, un semestre en Erasmus. Donc c'est vrai qu'on a ce souci-là, mais donc ça, c'est cet inconvénient d'avoir un ancrage à l'UTC assez fort. Mais l'avantage, c'est que on a aussi une visibilité, disons, ponctuelle. C'est vrai qu'à chaque début de semestre, il va y avoir un grand événement à l'UTC qui est la journée des associations, où là, c'est le moment justement de raviver la flamme, c'est-à-dire là, on va présenter l'association, avoir un stand et puis essayer d'attirer du monde selon leurs affinités avec le sujet, si ou elles préfèrent faire de la technique, animer des ateliers, faire de la radio ou simplement participer à la communication autour de Picassoft. Voilà, on va essayer de voir comment chacune peut trouver sa place si le sujet l'intéresse. Donc pendant des événements ponctuels de journée des associations, pendant ensuite les conférences, les ateliers, en fait les moments en présence, c'est vrai, de Picassoft, là on va essayer de montrer que chacune peut s'investir à sa mesure au départ, et puis donc ces moments-là on essaie de les rendre très très prolifiques pour recruter du monde, mais pour ce qui est de la pérennité de l'association, justement pour répondre un petit peu à cet enjeu-là de pérennité de ce que l'on fait, il y a un wiki de Picassoft de tout ce qui est
Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est un wiki pour le public qui connaisserait pas?
Oui, le wiki ici, alors ça part du wiki de l'encyclopédie. En fait, c'est un site web qui va essayer de structurer l'ensemble de connaissances qui vont être relatives à un sujet, à un thème, et ici à l'association. Et donc dans le wiki de Picassoft, on trouve comment fonctionne l'association, comment fonctionne sa trésorerie, comment fonctionnent ses machines, comment lancer une activité, comment lancer un plan de communication. Enfin voilà, tout a été détaillé. Et donc,
La documentation. C'est très important.
C'est ça, c'est la documentation. Non, mais tout à fait. Et donc, c'est un travail à chaque fois. Bon, on y pense en second temps. Et puis, on a heureusement certains et certaines membres qui insistent pour qu'on y travaille. Et je pense notamment à Quentin qui a fait énormément de travail sur le wiki de Picassoft. Il n'est pas tout seul, mais tout de même, il a insisté pour que beaucoup de nos pratiques et de nos petits tips soient capitalisés sur ce wiki-là. Et donc, forcément, ça aide aussi à accueillir les nouveaux et les nouvelles qui nous rejoignent, puisque bien sûr, si ils ont des questions, on en parle, mais les pratiques sont documentées, et puis a priori, si d'un coup tous les anciens et les anciennes s'en vont, l'association peut toujours fonctionner s'il y a des bras, bien sûr.
Tu as parlé tout à l'heure de la fête de la science qui va bientôt arriver. Donc j'imagine, est-ce que vous avez prévu des actions? Parce que ma prochaine question est, quelles sont les actions ou les évolutions à venir prochainement ou d'ici quelques années? Donc je sais que pour le chantier est très, très vaste pour ce qui est de la contre-voix. Pour Picassoft, j'imagine que vous faites quelque chose pour la fête des sciences. Est-ce qu'il y a d'autres projets à venir importants?
Oui, alors en général, on va dire que les projets de Picassoft, c'est de continuer à faire ce qu'on sait faire à peu près, c'est-à-dire de toujours organiser des conférences, des ateliers, des émissions de radio. Et puis pour la fête de la science, et je pense en général aussi pour toutes nos actions, c'est vrai que on va davantage prendre en compte et insister sur les sujets liés aux enjeux environnementaux liés au numérique. C'est-à-dire comment est-ce que on va repenser la conception d'un outil selon les impacts qu'il peut avoir, les impacts donc sur l'environnement et sur la société en général, mais en particulier sur l'environnement. Comment essayer de comprendre déjà les impacts des outils numériques sur l'environnement, et ensuite essayer de voir comment on peut influencer la conception d'outils pour avoir des outils plus soutenables. Ces questions-là vont être davantage présentes dans les actions de Picassoft vraisemblablement, et notamment à la fête de la science où les ateliers prévus sont en construction, mais vont concerner principalement ce sujet-là.
Et pour la contre-voix, quels sont les projets évolutions à court terme et à moyen terme?
Alors, déjà, nous serons présentes et présents au Capitole du Libre pour une conférence et un stand. Voilà, c'est casé. Le Capitole du Libre, c'est, je crois que c'est le 22 et 23 novembre, si je ne dis pas de bêtises.
Je crois que je vais te le dire tout de suite. Je crois que c'est plutôt le 19 et 20 novembre. Oups, à Toulouse, tu étais très, très prête.
Voilà, exactement. Et donc, notre but, c'est aussi de cibler, de s'adresser en tout cas à des publics bah, là aussi à la communauté du libre, parce que ça fait du bien de se retrouver entre militantes et militants et de faire ensemble, finalement, avec d'autres personnes qui partagent les mêmes idées, les mêmes enjeux. Et ensuite, alors à court terme, on va déménager, voilà, parce qu'actuellement notre siège social est toujours à 42 et donc on aimerait sortir donc l'association de 42. Donc on est en cours de déménagement à titre personnel et donc on va certainement faire venir l'asso avec nous d'ici peut-être quelques semaines. Et puis il y a toujours le chantier vis-à-vis du site web et du renommage, du changement de nom de tout ce qu'on a écrit avec 42 L dedans. Et bien il faut que ça devienne la Contre-Voix. Et ça prend un temps assez phénoménal. Voilà les chantiers que nous allons sur lesquels nous allons travailler ces prochaines semaines.
Et à propos de Picassoft et de la Contre-Voix, là je vous ai invité, mais en fait vous y étiez déjà rencontrés par le passé, c'est-à-dire que vous avez eu l'occasion déjà de faire quelque chose ensemble. Neil, tu souhaites peut-être en parler, Audrey, tu peux bien sûr rebondir.
Oui, on a travaillé ensemble sur un atelier de sensibilisation avec Starting Block, par exemple, lors des webinaires Provox, qui avait eu lieu...
Tu peux nous dire un peu qui est Starting Block, expliquer un peu au grand public.
Starting Block, c'est une association d'éducation populaire qui a pour but de sensibiliser des publics. Je ne sais pas exactement quels sont les détails de leurs activités, mais en tout cas, on a eu plusieurs occasions de travailler ensemble. Et donc, il nous a proposé d'organiser un webinaire en ligne, parce que c'était pendant le Covid, avec notamment Framasoft et une autre personne de Change.org. Donc, on a travaillé sur les enjeux démocratiques des données personnelles. Et évidemment, on a eu l'occasion de se voir au JDLL, à toutes les conventions du libre annuel, Passage en scène, par exemple, à Choisy le Roi. Voilà, régulièrement, on se croise et ça fait du bien quand même de se retrouver, d'avoir des assos qui font un petit peu les mêmes choses, avec un petit peu le même public. C'est très agréable, c'est très motivant. Et je pense que c'est aussi pour ça que le collectif existe.
Je confirme. Je confirme, ouais. Simplement.
Très bien. Donc, un autre aspect que je voulais aborder, c'est comment réagissent... Alors, ce n'est pas le cas pour 42, parce qu'il n'y a pas d'enseignants, tu l'as rappelé. Mais vous rencontrez des enseignants au moment où vous proposerez des conférences, des formations auprès de classes, j'imagine. Donc, pour Picassoft, tu disais que les enseignants, il y a un petit noyau d'enseignants qui sont déjà très sensibilisés au logiciel libre et qui ont été des alliés, voire des fondateurs même de l'association. Les autres enseignants, ceux qui ne sont pas sensibilisés, est-ce qu'il y a des retours de leur part quand vous faites des formations auprès des étudiants? Ils restent dans un coin, ils participent, parce que c'est ça le problème aussi, c'est qu'il faut que les étudiants, ils apprennent de nouvelles choses, ils prennent conscience, grâce à l'éducation populaire, des enjeux liés au numérique, mais après, il faut aussi que les enseignants ne les obligent pas à utiliser des outils privateurs, sinon ça, c'est un peu en contresens.
Ah oui, ça dépend des cours, en effet, parfois certains cours, je pense en mécanique, dans certains cours, les étudiants doivent utiliser des outils propriétaires, c'est ainsi. Après, voilà, l'idée à l'UTC, c'est ce que l'on fait en tout cas avec Picassoft, c'est on n'essaye pas de renverser complètement la balance et puis d'imposer une hégémonie du libre à l'UTC, c'est-à-dire que on montre que ça existe, on essaie de faire manipuler des alternatives libres, montrer que l'on a le choix, montrer que on peut utiliser tel outil à la place d'un autre. Et donc, en effet, dans certains cours, il est possible de tenir un cours, d'organiser des exercices avec des outils libres. Et dans ce cas-là, c'est bienvenu. C'est pas la guerre, l'UTC, à propos des logiciels libres. Non, c'est vrai. Mais parce qu'il n'y a pas de conflit à avoir, au sens où on va montrer que certaines alternatives existent, elles vont être utilisées dans des cours. Dans d'autres, où c'est a priori impossible, c'est ainsi. Mais voilà, c'est a priori, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de résistance à proprement parler envers ces initiatives qui poussent à amener davantage de libre dans le cursus Ingénieur.
En tout cas, ce serait super d'avoir un château dans chaque université. Hein. Ce serait super. Oui. notre temps arrive à la fin, mais avant de terminer notre échange, j'aimerais poser la question emblématique de la fin, c'est-à-dire qu'il si vous deviez, vous souhaiteriez que le public retienne quel message clé de notre échange. C'est le moment de partager quelque chose qui vous tient à cœur, qu'on n'a peut-être pas abordé au cours de l'échange. C'est votre moment en deux minutes environ. Neil, tu veux peut-être commencer ?
D'accord. Alors, nous, on a fait le choix ces dernières semaines. On a réfléchi en interne, on a décidé d'élargir nos plateformes de communication pour s'adresser à des publics qui ne sont pas sur Mastodon. Voilà, donc Mastodon, c'est un réseau social fédéré, une alternative à Twitter, une alternative libre à Twitter.
Et décentralisée.
Et décentralisée, tout à fait. Et nous avons réfléchi en interne et on s'est dit que si on veut sensibiliser à des publics non initiés, Mastodon, c'était peut-être pas le meilleur lieu pour sensibiliser des non-libristes, on va dire, donc des personnes qui ne défendent pas forcément bec et ongle les enjeux du numérique comme on pourrait le faire. Et donc, on s'est dit qu'il fallait aller chercher les publics là où ils sont pour les aider à choisir des logiciels qui vont mieux protéger leur liberté fondamentale et leur liberté numérique. Et donc, on a décidé de créer un groupe Discord très récemment afin d'accueillir spécifiquement, d'ailleurs, le public étudiant, puisque...
Je ne connais pas trop Discord, et peut-être que d'autres personnes ne le connaissent pas. Feras-tu nous préciser ?
Discord, c'est un logiciel de messagerie instantanée, comme WhatsApp ou plutôt Skype, par exemple.
C'est privateur. C'est
totalement propriétaire, fait un usage qui n'est pas forcément très éthique de nos données, évidemment. Mais voilà, en fait, on s'est aperçu que beaucoup d'étudiantes et étudiants utilisaient Discord, et donc si on arrive à toucher ces publics-là à travers, par exemple, de la veille technologique ou de la veille politique, informationnelle généralement, qu'on organiserait sur Discord, ou faire en sorte que ça soit une porte d'entrée vers nos activités, eh bien, en fait, ça permettrait à ces personnes-là de s'ouvrir un petit peu à ce qu'on a à leur proposer. Et de la même manière, nous aimerions potentiellement créer un compte Instagram ou d'autres plateformes sur lesquelles nous pourrions, qui ne sont pas du tout propices au partage des enjeux du logiciel libre parce que ce sont des plateformes privatrices, mais sur lesquelles nous pourrions nous développer de façon à faire de la contre-influence, donc continuer à faire ce que l'on a toujours fait à la contre-voix.
On détournait l'usage finalement pour sensibiliser aux enjeux du logiciel libre.
D'une certaine manière, oui, exactement.
Merci Audrey. En mot de la fin ?
Oui, en mot de la fin, dire que lorsqu'on commence à se poser des questions vis-à-vis des outils numériques que l'on utilise, c'est le point de départ d'action après individuelle ou collective, mais pour se réapproprier les outils. Et puis, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'impuissance, de fatalité à se dire de toute façon je vais utiliser des outils propriétaires puisque je n'ai pas le choix et que je ne sais pas faire autrement. Non, il y a la possibilité d'aller voir un chaton local, c'est-à-dire de se rendre sur chaton.org et d'aller voir les organisations qui sont près de chez soi, d'aller parler à des humains qui travaillent sur ces questions-là, simplement de se dire qu'il est possible, si on a envie de se poser ces questions-là et de se réapproprier des outils numériques pour être capable, encore une fois, de les choisir en toute connaissance de cause, de savoir ce qu'ils font de nos données, etc. C'est possible sans connaissance technique, c'est possible en ayant l'impression qu'on n'y connaît rien. Ce n'est pas vrai. On y connaît beaucoup de choses déjà. Et puis, avec le lien humain justement qui se crée dans ces chatons, dans ces collectifs-là, on apprend énormément. On apprend de façon conviviale et avec beaucoup de plaisir, comme tu le disais, Neil. Et ça commence par là. Et ensuite, c'est comme ça que l'émancipation arrive. Et voilà.
Donc aujourd'hui, il y a plein d'acteurs, ils sont visibles, vous pouvez les trouver. Donc si vous voulez en savoir plus pour vous émanciper, notamment sur ces questions, n'hésitez pas. Hein. On l'a dit, il y a les chatons notamment, mais il y a aussi les groupes d'utilisateurs et utilisatrices de logiciels libres. Il y a l'agenda du libre où vous pouvez trouver des événements près de chez vous. Donc n'hésitez pas, aujourd'hui c'est possible, c'est visible, vous avez toutes les informations, allez-y. Audrey Guélou de Picassoft, Neil de la Contrevoix, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Je vous souhaite une très bonne continuation pour vos projets.
Merci beaucoup, Isabella. Merci Neil, merci à l'April et la radio.